Les convives restaient muets. Mais leurs sentiments avaient changé de nature et de dimension. Les poitrines s'élargissaient comme si chacun eût besoin d'aspirer plus d'air. Une cuillère qui tomba rendit dans ce silence un tintement exagéré. Robert avait dans les prunelles une lueur de triomphe. Il s'inclina et dit « Sire, mon jeune et vaillant cousin, je n'attendais pas de vous une autre réponse. Votre noble cœur a parlé. J'ai grande joie pour votre gloire et pour moi, Sire Édouard, j'en tire grande espérance, car ainsi je pourrai revoir mon épouse et mes enfants. Par Dieu qui nous entend, je vous fais vœu de partout vous précéder en bataille et prie que vie assez longue me soit accordée pour vous servir assez et assez me venger. » Puis, s'adressant à la tablée entière, « Mes nobles lords, chacun de vous n'aurait-il pas à cœur de faire vœu comme le roi, votre sire bien-aimé, l'a fait ?» Toujours portant le héron rôti aux ailes et aux croupions duquel le cuisinier avait replanté quelques-unes de ses plumes, Robert avança vers Salisbury. « Noble Montagu, à vous le premier, je m'adresse !»« Contrebert, tout à votre désir, » dit Salisbury, qui quelques instants plus tôt était prêt à se lancer sur lui. Et se levant, il prononça « Puisque le roi notre sire a désigné son ennemi, je choisis le mien. Et comme je suis maréchal d'Angleterre, je fais vœu de n'avoir repos gagné que lorsque j'aurai défait en bataille le maréchal de Philippe, le faux roi de France. » Gagné par l'enthousiasme, la table l'applaudit. « Moi aussi, je veux faire vœu !» s'écria en battant des mains la demoiselle de Derby. « Pourquoi les dames n'auraient-elles pas droit de vouer ?»« Mais elles le peuvent, gente comtesse, » lui répondit Robert. « Et à grand avantage. Les hommes n'en tiendront que mieux leur foi. Allez, pucelette » ajouta-t-il pour les deux fillettes couronnées. « Remettez-vous à chanter en l'honneur de la dame qui veut vouer !» Ménestrels et pucelettes reprirent. « Je vais à la verdure, car l'amour me l'apprend. » Puis, devant le plat d'argent où le héron se figeait dans la sauce, la demoiselle de Derby dit d'une voix aigrelette « Je vous, et promets à Dieu de paradis, que je n'aurai mari, qu'il soit prince, comte ou baron, avant que le vœu que vient de faire le noble lord de Salisbury soit accompli. Et quand il reviendra, s'il en échappe vif, le mien corps lui octroie, et de bon cœur. » Ce vœu causa quelques surprises, et Salisbury rougit. Les belles nattes noires de la comtesse de Salisbury n'eurent pas un mouvement. Ses lèvres simplement se pincèrent d'une légère ironie, et ses yeux, aux ombres mauves, cherchèrent à accrocher le regard du roi Édouard, comme pour lui faire comprendre « Nous n'avons point trop à nous gêner ». Robert s'arrêta ainsi devant chaque convive, faisant donner quelques tours de vielle et chanter les fillettes pour laisser à chacun le temps de préparer son vœu et choisir son ennemi. Le comte de Derby, père de la demoiselle qui avait fait une déclaration si osée, promit de défier le comte de Flandre. Le nouveau comte de Suffolk désigna le roi de Bohême. Le jeune Gautier de Mauny, tout bouillant d'avoir été récemment armé chevalier, impressionna vivement l'assemblée en promettant de réduire en cendres toutes les villes autour du Hainaut qui appartenaient à Philippe de Valois, dût-il, jusqu'à ce faire, ne plus voir la lumière que d'un œil. « Eh bien !» « Qu'il en soit ainsi, » dit la comtesse de Salisbury, sa voisine, en lui posant deux doigts sur l'œil droit. « Et quand votre promesse sera accomplie, alors mon amour soit acquis plus même, c'est là mon vœu. » En même temps, elle regardait le roi. Mais le naïf Gautier, qui croyait cette promesse à lui destinée, garda la paupière fermée après que la dame en eut ôté les doigts. Puis, sortant son mouchoir qui était rouge, il se le noua en travers du front pour tenir l'œil couvert. Le moment de pure grandeur était passé. Quelques rires se mêlaient déjà à cette compétition de bravoure orale. Le héron était arrivé devant messire Jean de Hainaut, lequel avait bien espéré que la provocation tournerait autrement pour son auteur. Il n'aimait pas à recevoir des leçons d'honneur, et son visage poupin cachait mal son dépit. « Lorsque nous sommes en taverne et force vin buvant, dit-il à Robert, les vœux nous coûtent peu pour nous faire regarder nos dames. Nous n'avons alors parmi nous que des oliviers, des Rolands et des Lancelots. Mais quand nous sommes en campagne, sur nos destriers courants, nos écus au col, nos lances abaissées, et qu'une grande froidure nous glace à l'approche de l'ennemi, alors combien de fanfarons aimeraient mieux être dans les caves ? Le roi de Bohême, le comte de Flandre et Bertrand le maréchal sont aussi bons chevaliers que nous, cousin Robert, vous le savez bien. Car bannis que nous soyons l'un et l'autre de la cour de la France, mais pour raisons diverses, Nous les avons assez connus. Leurs rançons ne nous sont pas encore acquises. Pour ma part, je fais vœu simplement que si notre roi Édouard veut passer par le Hainaut, je serai auprès de lui pour toujours soutenir sa cause. Et ce sera la troisième guerre où je le servirai. » Robert venait maintenant vers la reine Philippa. Il mit un genou en terre. La ronde Philippa tourna vers Édouard son visage taché de sang. « Je ne puis faire vœu, » dit-elle, « sans l'autorisation de monseigneur. » Elle donnait par là une calme leçon aux dames de sa cour. « Vouez tout ce qu'il vous plaira, mamie. Vouez ardemment, je ratifie d'avance. Et que Dieu vous aide, » dit le roi. « Si donc, mon doux sire, je puis vouer ce qui me plaît, » reprit Philippa, « puisque je suis grosse d'enfant, et que même le sang remué, je voue qu'il ne sortira de mon corps que vous ne m'ayez mené outre-mer pour accomplir votre vœu. » Sa voix tremblait légèrement comme au jour de ses noces. « Mais, s'il advenait, ajouta-t-elle, que vous me laissiez ici et partiez outre-mer avec d'autres, alors je m'oxyrais d'un grand couteau d'acier pour perdre à la fois et mon âme et mon fruit. » Ceci fut prononcé sans emphase, mais bien clairement, pour que chacun en fût averti. On évitait de regarder la comtesse de Salisbury. Le roi baissa ses longs cils, prit la main de la reine, la porta à ses lèvres et dit dans le silence, pour rompre le malaise, « Mamie, vous nous donnez à tous leçon de devoir. Après vous, personne ne vouera. » Puis à Robert, « Mon cousin d'Artois, prenez votre place auprès de madame la reine. » Un écuyer partagea le héron, dont la chair était dure, pour avoir été cuite trop fraîche, et froide d'avoir si longtemps attendu. Chacun, néanmoins, en mangea une bouchée. Robert trouva à sa chasse une exquise saveur. La guerre, ce jour-là, était vraiment commencée.